Cet épisode a été rendu possible grâce à la contribution de ArchiPro. ArchiPro est une application web et mobile de gestion de projets de construction. Développée par une jeune entreprise, le logiciel fait déjà ses preuves dans le milieu de la construction en Côte d'Ivoire.
Tout ce qui est enrobé à froid, on peut les stocker, durer quelques jours, pendant 4 jours à une semaine. On peut les stocker. Nous, on a fait l'expérience avec le BBE dont j'ai parlé tout à l'heure, le béton bitumineux à l'émulsion. On l'a produit et puis on l'a stocké pendant près de 4 jours et on l'a réutilisé pour l'appliquer. Donc, quand on a fait ça, il y a aussi les études d'enrobage. Donc, on va prendre le mélange. Si c'est la latérite, on va prendre la latérite. On va faire varier les quantités d'émulsion qu'on va ajouter à la latérite là. Et puis, on va observer la quantité d'émulsion qui nous permet d'avoir un bon enrobage.
Hello, ici Alamadogo. Pour cet épisode bonus, avec Kra Herman, nous discutons du recyclage à froid des assises de chaussée. Je n'en dis pas plus et je vous laisse écouter cette discussion. Bonne écoute. Ok, donc pour continuer, je pense que cette fois-ci, on parlera d'un des projets de recyclage de matériaux à froid.
C'est ça.
Un projet sur lequel tu as travaillé. Donc, tu vas nous expliquer, peut-être présenter brièvement le projet. Bien sûr, si ça ne pose pas de problème de confidentialité et tout. Et puis, dis un peu...
Bon, peut-être qu'il y a des détails dont... Je ne pourrais pas parler, mais quand même c'est un projet qui est connu. J'ai déjà fait une présentation lors du séminaire international sur le retraitement des chaussées et le recyclage des enrobés au niveau du plateau sur le CNCI route. Donc, on en a déjà parlé.
Le CNCI Route, il faut peut-être dire c'est quoi, c'est une
organisation. Le CNCI Route, c'est le Comité National Côte d'Ivoire qui fait partie de l'IPCR, qui est devenu aujourd'hui PIAC. Donc,
il y a l'Association internationale de la route, c'est ça?
C'est ça, l'Association mondiale pour la route. Donc déjà, il faut dire que je suis membre du CNCI Route dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Et puis au niveau de PIAC aussi, je fais partie d'un comité technique, voilà, qui est le comité technique TC 4.1 chaussée. Donc là-bas aussi, il s'agit de traiter tout ce qui est, n'est-ce pas, recyclage des chaussées. Voilà, donc on a déjà fait une présentation. Hein, donc, c'est vrai qu'il y a des choses dont on ne parle pas actuellement puisqu'on est toujours en train d'étudier ce matériau-là. Donc, mais déjà pour la présentation, je pense que ça pose pas de problème.
D'accord, c'est-à-dire quoi, le matériau, il est déjà mis en œuvre et tout. Actuellement, vous êtes en train de faire un suivi pour voir son comportement.
C'est ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc déjà, pour te présenter un peu le projet, voilà, c'est un chantier qu'on a réalisé au niveau de l'axe Akoupé, Kotobi, Bangwanou, qui fait pratiquement 60 km, environ 60 km de route, voilà, qu'on a traité avec notre méthode, je dirais la méthode Razel, voilà, où on a recyclé le matériau qui était en place avec l'ajout d'émulsion et puis un peu de ciment pour retraiter le matériau qui était en place. Donc, c'est un peu ça qu'on a fait pour ce dont on doit discuter aujourd'hui. Mais d'abord, je voulais signifier que, je suis quand même à mon, ouais, je peux dire, troisième grand projet de recyclage. J'ai fait Kotobi, Bangwanou à couper. Ensuite, on a fait Kanaolo, Ferke. Et puis, actuellement, c'est la Côtière. Donc, le recyclage, on a quand même fait pas mal de choses dans ce sens-là.
D'accord.
Donc, le sujet de ce soir, je pense que c'est le retraitement et le recyclage des chaussées à l'émulsion de bitume.
C'est ça. Donc, déjà, ce que j'aimerais ajouter, c'est que tu me corriges, je parle sous ton contrôle. L'axe en question, c'est à l'est de la Côte d'Ivoire.
Disons que c'est au centre. Hein. Au centre. Centre, et ça débouche sur l'est.
D'accord. Ça, c'est juste pour situer géographiquement le contexte du projet.
Centre-est, je peux dire ça comme ça.
D'accord. Maintenant, il faut peut-être expliquer vraiment brièvement, quand on parle de recyclage, c'est quoi le recyclage de matériaux de chaussée?
D'abord,
tu essaies de donner la différence entre le recyclage et puis... OK, c'est qu'on fait hormis le recyclage. C'est-à-dire qu'on est en phase de réalisation d'une route neuve, ainsi de suite. On fait directement. Pourquoi là, on n'a pas ça recyclage et puis dans ton cas, on parle de recyclage?
D'accord.
Je ne sais pas si je le fais comprendre.
Je comprends un peu.
Okay.
Le recyclage, déjà, pour être simpliste, il faut dire que le matériau, il est en place et on lui donne une seconde vie. Voilà, donc d'accord. Le matériau, il est mis en œuvre, il est fatigué, on le remalaxe pour lui donner une nouvelle vie. C'est ce qu'on appelle, de façon générale, le recyclage. Maintenant, en plus de ça, recycler seul ne suffit pas. Selon l'endroit où on veut utiliser le matériau qui est en place, selon sa position dans la couche de chaussée. Si on veut peut-être l'utiliser en fondation ou en base, il faut, en fonction du trafic, ajouter maintenant d'autres liants, que ce soit liants hydrocarbonés ou encore liants hydrauliques pour permettre au matériau d'avoir de meilleures performances par rapport à son état initial. Dans ce cas-là, on va parler de retraitement. Donc, généralement, ce qu'on fait ici, le recyclage, là, est suivi d'un retraitement.
D'accord. Pour synthétiser un peu, c'est-à-dire qu'on a notre route qui est déjà construite. Elle a eu une certaine durée de vie. Et au bout d'un certain moment, on se rend compte qu'il y a peut-être beaucoup de dégradation. Mais les matériaux utilisés pour la réalisation de la route sont fatigués.
On
ne veut pas enlever ce matériau, le jeter, parce qu'il y a déjà la rareté des matériaux, il faut signifier ça aussi.
Mm.
Donc, on décide de redonner une seconde vie au matériau qui est en place.
C'est ça.
Maintenant, la méthode ou la technique qu'on va utiliser va dépendre de la position que cette couche-là va occuper sur la nouvelle route, c'est ça?
C'est ça.
D'accord.
Par exemple, si vous voulez l'utiliser en plateforme support, dans ce cas-là, peut-être même que vous n'aurez même pas besoin de recycler. On fera juste un nivellement et puis faire les méthodes classiques qu'on avait l'habitude de faire, qui étaient les rechargements. Donc, les rechargements, généralement, ce qui se faisait, c'est qu'on avait la chaussée qui était là, qui était fatiguée. On vient en faire un raboutage des couches d'enrobé et puis on recharge avec de nouveaux matériaux. Donc, maintenant, le recyclage, lui, c'est d'utiliser tout ce qui est en place justement pour lutter un peu contre tous ces paramètres environnementaux.
D'accord. C'est-à-dire qu'en phase de construction d'une route, on va les réhabilitations d'une route existante, on a deux possibilités. Soit on
C'est
va
ça.
enlever tout ce qui est en place parce qu'on estime que c'est fatigué, ça ne peut plus nous servir, et puis on va envoyer de nouveaux matériaux, ou on va
Bon, pas
envoyer.
enlever tout, peut-être enlever simplement les couches de surface là, et puis recharger maintenant à partir de ce qui va rester.
OK. Ou bien on décide d'utiliser ce qui est déjà en place.
Ou bien on décide d'utiliser ce qui est déjà en place.
OK. Avant qu'on ne rentre dans les détails, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on décide, par exemple, de faire du recyclage? C'est quoi les avantages vraiment pertinents, quoi?
Je pense qu'on en a déjà parlé, hein. Voilà. Déjà, on a parlé des aspects environnementaux.
Oui.
Voilà, le fait d'utiliser les matériaux en place va nous éviter d'aller chercher encore de nouveaux matériaux quand on sait la rareté des matériaux que nous utilisons pour nos chaussées. Donc, ça présente un avantage déjà de réemploi de l'existant. Donc, on va utiliser ce qui existe pour lui donner un second souffle afin d'avoir, n'est-ce pas, une chaussée beaucoup plus solide par rapport à l'état dans lequel la route se situe. Donc, il y a ça, il y a ces aspects-là. Évidemment, ça va réduire aussi tout ce qui est dégagement de CO2 parce qu'on va éviter les transports de matériaux sur de longues distances. Donc, tout ça fait partie des aspects environnementaux. Donc, on réduit beaucoup ces risques-là. Et puis, en plus de ça, on a la possibilité d'appliquer des traitements qui vont nous permettre d'avoir des matériaux beaucoup plus performants. Donc, en termes de performance, on donne une nouvelle performance aux matériaux qui existent. Donc, quelle que soit la technique qu'on applique, on améliore le matériau qui existe. Donc, il va devenir beaucoup plus performant par rapport à son état dans lequel, disons, il se trouve.
D'accord. Ça dit que quand on donne une deuxième vie au matériau, les caractéristiques sont meilleures que lorsqu'on utilisait le matériau pour la première fois? Ou bien
Ça
on...
dépend. Ça dépend de quel de comment est-ce que le matériau avait été utilisé initialement et comment est-ce qu'on l'utilise en le recyclant et en le retraitant. Si au départ on a fait ce que nous on a l'habitude de faire ici, hein, si au départ on a fait un traitement ou une amélioration au ciment, il va sans dire que si on recycle et qu'on fait la même chose, on aura pratiquement les mêmes caractéristiques avec quelques petites variations. Mais si au départ, on a peut-être une couche de base en grave non traité, en GNT par exemple, et qu'avec le recyclage, on ajoute un liant, soit hydrocarboné ou hydraulique. Donc, hydrocarboné, ça va être tout ce qui est émulsion et puis hydraulique, ça va être tout ce qui est ciment. Donc, si on a une grave non traitée qui est en place et qu'on l'améliore avec du ciment, on aura des performances meilleures par rapport à quand il a été utilisé initialement. Donc, tout dépend de comment est-ce qu'on a utilisé le matériau au départ et comment est-ce que on compte faire le retraitement. Il faut pas oublier aussi qu'il y a les retraitements des enrobés. Donc, c'est le même procédé. Si au départ, on a peut-être une grave bitume qui est en place et qu'après, on vient le recycler, le retraiter à froid, naturellement, ses performances seront moindres par rapport à quand on l'a produit initialement. Donc, tout dépend de comment le matériau a été utilisé initialement et quel retraitement est-ce qu'on veut apporter pour donner une seconde vie au matériau qui est en place. Mais toujours est-il que le matériau après recyclage et retraitement est toujours meilleur par rapport à son état
dans lequel on l'a trouvé. D'accord. Le recyclage, il se fait souvent à chaud, soit il est semi-froid, soit il est froid. Les différents projets de recyclage sur lesquels tu as travaillé, c'était à quelle température à peu près? Disons, c'était des recyclages à froid, semi-froid ou chaud?
Bon, généralement, c'est des recyclages à froid que j'ai réalisé. Que ce soit avec l'émulsion ou avec le ciment, généralement, c'est des recyclages à froid.
Est-ce qu'il y a
À chaud, c'est les enrobés. Voilà, c'est les enrobés. On a
des graves émulsions.
Les graves émulsions, c'est à froid.
D'accord.
À chaud, c'est directement des enrobés. Donc, soit eux, on les rabote, on les ramène en centrale pour les réchauffer en y ajoutant, bien évidemment, tout ce qui est produit pour faire les enrobés, notamment le bitume avec éventuellement d'autres additifs, pour refaire encore un enrobé à chaud. Ou encore, on a des engins, on a des recycleuses à chaud qui existent, qui rabotent, qui réchauffent et qui injectent soit du bitume ou de l'émulsion directement pour appliquer directement, donc sans passer par une centrale. Donc, il y a ces procédés-là aussi qui sont réalisés. Mais ce que moi, j'ai fait dans pratiquement tous les projets que j'ai cités là, c'était des recyclages à froid. C'est vrai qu'on a fait d'autres types d'enrobés, tels que la grave bitume de classe 3, la grave bitume de classe 4, du BBME.
C'est plus du recyclage, non?
Mais ça, c'est pas du recyclage, c'est des enrobés à chaud.
Okay.
Maintenant, il y a un autre traitement à froid qu'on a réalisé, mais c'est un béton bitumineux à l'émulsion. Donc, c'est aussi un procédé réalisé à froid. Donc, on a les granulats, ça peut être des granulats recyclés ou bien des granulats neufs qu'on utilise. On malaxe le granulat et puis l'émulsion en centrale et on vient appliquer, mais à froid également.
D'accord. Est-ce que lorsqu'on fait du recyclage, par exemple, le matériau, il est stockable? Parce que des enrobés, on va dire...
Les enrobés à froid sont stockables. Les enrobés à froid sont stockables. Tout ce qui est enrobé à froid, on peut les stocker
pendant à peu près
quelques jours. Pendant 4 jours à une semaine. On peut les stocker. Nous, on a fait l'expérience avec le BBE dont j'ai parlé tout à l'heure, le béton bitumineux à l'émulsion.
Mm-hmm.
On l'a produit et puis on l'a stocké pendant près de 4 jours et on l'a réutilisé pour l'appliquer encore.
D'accord. OK, maintenant, question un peu plus technique. Tu dis que le recyclage, ça consiste à donner une seconde vie au matériau existant par l'ajout de certains composants. On peut ajouter quoi et quoi, par exemple? Et puis, c'est quoi la particularité de ces différents composants-là?
D'accord. Donc, je dirais qu'il y a quand même pas mal de produits. Hein. Déjà, il y a le ciment. Voilà, on peut faire un recyclage, un retraitement en place avec du ciment.
Mm-hmm.
Donc, les liens hydrauliques ou à la chaux. Bon, la chaux, nous, on ne l'utilise pas ici. Nous, on est plus sur du ciment. On peut le faire également avec l'émulsion de bitume ou encore avec de la mousse de bitume. Bon, la mousse, ça tire un peu vers l'émulsion de bitume. Mais c'est un peu différent. Voilà, donc il y a la mousse de bitume qu'on peut utiliser, il y a l'émulsion de bitume, il y a le ciment et puis éventuellement la chaux. Bon, la chaux et puis la mousse, ça, on ne l'a jamais fait ici. Par contre, l'émulsion de bitume et puis le ciment, ça, on l'a déjà fait ici.
D'accord. L'ajout d'émulsion ou bien de ciment, c'est et ou?
Ça dépend.
Dans
Ça
le cas d'un
dépend.
de tes projets, je ne sais pas, tu prends un parmi les trois dont tu as parlé, vous avez utilisé l'émulsion et le ciment, ou bien soit l'émulsion, soit le ciment.
C'est ça. Eh bon, déjà, ce que nous, on a fait sur Akoupé Kotobibongouanou, on a fait un retraitement avec l'émulsion et le ciment. Il faut dire que pour faire le retraitement avec l'émulsion, tout comme le ciment, hein, les paramètres initiaux du matériau qui est en place jouent beaucoup. Donc, dans le cadre du chantier Akoupé Kotobibongouanou, on avait en place de la latérite qu'on devait retraiter avec de l'émulsion de bitume. Donc, pour faire ce retraitement-là, on va déjà caractériser le matériau qui est en place en faisant tous les essais standards qu'on connaît là, notamment les analyses granulométriques, les limites d'Atterberg, le Proctor, le CBR, ainsi de suite. Donc, ce qui va jouer, c'est la courbe granulométrique du matériau qu'on doit retraiter. Voilà. Et cette courbe-là doit s'inscrire dans un certain fuseau. Il doit donc avoir, si tu veux, un certain pourcentage de fine, une certaine plasticité pour pouvoir l'utiliser directement en traitement avec l'émulsion. Maintenant, dans notre cas, sur Akoupé Kotobibongouanou, on a constaté que l'IP du matériau et le pourcentage de fine étaient un peu en dehors de ce qu'on attendait pour appliquer directement le retraitement à l'émulsion. Donc, on a ajouté le ciment pour, si tu veux, annihiler ou, je dirais, diluer un peu l'effet des fines. Voilà. Parce que s'il y a trop de réactions de fines dans le mélange final, ça peut agir sur les performances du matériau au final. Donc, on a
D'accord.
ajouté le ciment pour essayer de diminuer un peu l'action des fines dans le mélange. Donc, c'est pour
OK.
ça qu'on a fait ciment et émulsion.
Si je veux récapituler, c'est-à-dire que le matériau existant, avant de décider soit de le recycler avec l'émulsion ou du ciment, ou bien avec de l'émulsion et du ciment, on fait des essais préliminaires pour avoir
C'est
les
ça.
caractéristiques. Et essentiellement, la courbe granulométrique du matériau dont on a fait les essais doit s'inscrire dans un fuseau plus ou moins pour pouvoir
C'est
soit
ça.
l'utiliser directement avec de l'émulsion,
C'est
ou bien
ça.
l'utiliser avec de
Il y a
l'émulsion et
sa
du ciment.
granulo et puis il y a
L'indice de
son IP.
plasticité. D'accord.
Voilà.
OK.
Donc, on doit être dans une certaine marge pour pouvoir l'utiliser directement. Je prends par exemple, hein, quand on faisait le chantier de la route au Kanaolo-Ferke, on avait proposé une étude de retraitement de la GNT à l'émulsion. Voilà, la GNT, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de fines généralement dans les GNT. Les fines agissent moins dans les GNT. Donc, pour la GNT, par exemple, on avait proposé directement un retraitement à l'émulsion de bitume sans ajout de ciment. Il y a un chantier au Mali, la RN6, que Razel Beck a réalisé. Ça aussi, on a fait un traitement en place à l'émulsion de bitume de la latérite. Là-bas, ils ont aussi de très bonnes latérites qui présentent moins de fines. Donc, on a fait un retraitement en place de la latérite simplement avec l'émulsion de bitume. Et on avait un dosage en émulsion un peu plus faible même que celui de Akupe Bongo, Kotobi Bongwan.
D'accord. La question qui va suivre, c'est, elle concerne déjà le type d'émulsion. J'imagine qu'il y a plusieurs types d'émulsion. Comment
C'est
se fait
ça.
le choix du type d'émulsion et aussi les quantités à ajouter?
D'accord. Donc déjà, voilà, comme tu l'as dit, hein, ça fait partie du choix du liant. Voilà, généralement, ce qu'on utilise pour le recyclage à l'émulsion de bitume, ce sont des émulsions qu'on caractérise de rupture lente. Voilà, donc il y a plusieurs types d'émulsions, comme tu l'as dit. Il y a des émulsions rapides, il y a des émulsions lentes et puis il y a des émulsions moyennes. Donc, ce qu'on utilise pour notre recyclage à l'émulsion, ce sont les émulsions à rupture lente. Donc, qui sont généralement dosées autour de 60% de bitume. Voilà,
D'accord,
donc.
c'est-à-dire la composition de cette émulsion-là, et on a 60% de bitume à l'intérieur et puis peut-être de l'eau et puis d'autres choses.
Voilà, on a 60% de bitume, on a de l'eau, on a de l'acide chlorhydrique pour le rendre acide. Voilà, parce que on fait le mélange de l'eau et de l'émulsion et du bitume. C'est l'eau et le bitume qui donnent l'émulsion. Maintenant, pour avoir une liaison entre l'eau et le bitume, on ajoute ce qu'on a appelé l'émulsifiant. C'est l'émulsifiant qui permet d'avoir la liaison entre l'eau et le bitume. Donc, quand l'eau va se séparer du bitume, on dira qu'il y a rupture. Voilà, donc,
D'accord.
plus, quand, si la rupture est rapide, on parlera d'émulsion à rupture rapide. Si la rupture est lente, on parlera d'émulsion à rupture lente. Et le paramètre qui permet de caractériser cette rupture-là, c'est l'indice de rupture. Donc, en fonction de la valeur de l'indice de rupture, on sait plus ou moins si on a affaire à une émulsion à rupture rapide ou si on a affaire à une émulsion à rupture lente. Maintenant, on ajoute un peu d'acide chlorhydrique parce que l'eau, il est basique. Son pH est autour de 7. Généralement, les émulsions, on souhaite que les pH soient compris entre 2 et 3. Donc, on va ajouter un peu d'acide chlorhydrique pour rendre le mélange acide.
OK,
Voilà, donc si
d'accord.
tu veux, je résume. L'émulsion, c'est bitume, eau, acide et puis émulsifiant. Donc chacun a son rôle.
D'accord. Comment on appelle ça? OK. Le fait que la rupture soit lente et rap ou rapide. Dans votre cas, vous avez utilisé une rupture lente, tu as dit.
C'est ça.
Est-ce que c'est cette caractéristique-là qui permet de conserver le matériau recyclé au bout de 3 jours à une semaine? Ou bien
C'est
c'est
ça.
pas
Si tu
lié?
veux, l'émulsion cationique à rupture lente est utilisée parce qu'elle rompt lentement. La rupture se fait lentement au contact des granulats. Donc, c'est ça qui permet déjà d'avoir un bon enrobage parce que ton adhésion liant granulat va pas partir assez rapidement. Donc, tu auras déjà un bon enrobage. Et c'est cette émulsion-là, à cause de la lenteur de sa rupture, qui va permettre de conserver toujours la liaison liant granulat de sorte à pouvoir déjà faire les exécutions pendant les travaux et en plus de ça conserver aussi le mélange quand on est dans le cadre des enrobés à froid pendant peut-être quelques jours, contrairement à un enrobé à chaud.
OK. Ma question était à deux volets. On a parlé du type de liant, c'est-à-dire quel type d'émulsion, mais aussi comment se fait le choix du dosage.
Bon, le choix du dosage, c'est une étude, hein.
OK.
C'est une étude qui se fait. Donc, l'étude au laboratoire déjà va permettre de voilà, déterminer tout ce qui est, si tu veux, la teneur en fluide totale pour le compactage. Donc, ça, on fait généralement des essais proctor pour déterminer la teneur en fluide totale pour avoir un bon compactage. Donc, on va faire varier les quantités d'émulsion à ajouter dans le mélange et on va faire les essais proctor pour voir quelle quantité de liant nous permet d'avoir
La quantité
l'optimum.
optimum. D'accord, c'est un peu
Voilà.
comme pour un matériau cru, au lieu de varier les quantités d'eau, c'est plutôt la quantité d'émulsion que vous changez, c'est ça?
Non, pareil, c'est la même chose, c'est l'essai proctor, on fait varier les quantités d'eau et puis les quantités d'émulsion aussi.
Non, ce que je veux dire, on est en train de chercher à choisir le dosage d'émulsion
Non, ça c'est une première, ça c'est une première étape.
OK.
Ça c'est une première étape. Donc, quand on a fait ça, il y a aussi les études d'enrobage. Donc, on va prendre le mélange. Si c'est la latérite, on va prendre la latérite. On va ajouter, on va faire varier les quantités d'émulsion qu'on va ajouter à la latérite là. Et puis, on va observer la quantité d'émulsion qui nous permet d'avoir un bon enrobage. Voilà. Une fois que ces deux-là sont faits, on regarde qu'est-ce qui nous permet d'avoir une bonne performance. Une fois que ça c'est fait, il y a aussi les études de modules qui sont réalisées. Mais déjà, dans un premier temps, on fait ces deux études-là. C'est-à-dire, on a caractérisé le matériau, on a décidé soit on ajoute ou pas le ciment, on sait plus ou moins s'il y aura du ciment ou pas. Mais je prends le cas où peut-être on a fini de voir pour le ciment et on veut travailler maintenant sur l'émulsion. Donc, ce qu'on va faire, on va faire des essais proctor pour déterminer la teneur en fluide totale. Donc, teneur en fluide parce qu'il y a l'émulsion qui est fluide et puis il y a de l'eau aussi. Donc, on va déterminer la quantité d'émulsion qu'il faut apporter pour avoir l'optimum du mélange. On fait ça, on fait aussi l'étude de l'enrobage. Donc, on va doser le matériau avec plusieurs quantités d'émulsion, y compris avec sa teneur en eau optimale également. Et on va observer qu'est-ce qui nous permet d'avoir, quelle quantité d'émulsion nous permet d'avoir un bon enrobage. Donc, une fois que ça c'est fait, on passe maintenant aux caractérisations mécaniques. Donc, les caractérisations mécaniques, c'est tout ce qui va être l'attraction, les résistances en traction indirecte et puis module, le module.
D'accord.
Donc, dans notre cas, par exemple, le module qu'on devait rechercher, c'était le module Dungut ou si tu veux, le module élastique autour de 1000 MPa. Donc, vous allez faire ces essais-là sur les différents dosages en émulsion pour avoir les 1000 MPa.
Avant de continuer, les 1000 MPa sont déterminés par qui? Le maître d'ouvrage ou bien par qui exactement? Parce que j'imagine que c'est une donnée d'entrée.
Ce que nous on a fait, on est parti sur la base de ce qui se faisait déjà avec le ciment.
OK.
Voilà, on sait que quand on améliore un matériau avec du ciment autour de 3 à 4 %, on n'est pas loin de cette valeur de module. Donc, nous, on s'est dit, si on doit faire un traitement avec de l'émulsion, à minima, on doit être également autour de cette valeur. Donc, la valeur du module qu'on a visé était autour de 1000 MPa. Donc, on a fait les essais, on a fait les mélanges au laboratoire, on a fait les caractérisations mécaniques pour avoir cette valeur de module.
OK.
Maintenant, nous, quand on venait avec la technique, ça n'avait jamais été réalisé en Côte d'Ivoire. Hein, donc, le maître d'ouvrage n'avait pas une grande connaissance de ce matériau-là.
OK.
Donc, c'est nous qui avons fixé tous les paramètres de dimensionnement de ce matériau-là et au laboratoire, on a cherché à atteindre ces performances-là.
OK. Je pense que, étant donné que c'est un nouveau matériau, on parlera plus de sa longévité, mais pour le moment, on a fini de faire nos formulations au laboratoire et tout. Concernant la mise en œuvre, c'est pareil que pour un matériau cru ou bien il y a une particularité?
Si tu veux, je dirais que c'est pareil comme un retraitement avec le ciment, à la seule différence que vous avez besoin d'une recycleuse qui a la possibilité d'avoir deux injecteurs de liants différents. Donc, il doit avoir la possibilité d'injecter de l'eau et de l'émulsion.
D'accord. C'est-à-dire que
si la recycleuse, vous allez accrocher la citerne qui contiendra l'émulsion et la citerne qui contiendra de l'eau. Donc, les deux, vous allez les injecter simultanément. Donc, votre recycleuse doit pouvoir faire ce travail-là.
D'accord. Le recyclage se fait in situ. On n'a pas besoin d'aller en centrale avant de...
On peut le faire en centrale, mais généralement, ça, on le fait in situ également.
D'accord. Maintenant, concernant le contrôle de la mise en œuvre, c'est pareil, des essais de densité in situ ou bien ça se contrôle comment?
Ouais, c'est pareil que tous les autres matériaux qu'on a l'habitude d'utiliser. Hein. Voilà, une fois que la formule est calée, la formule est bien faite, ce qu'il faut contrôler, voilà, c'est déjà s'assurer qu'on respecte tous les dosages et puis venir s'assurer qu'on a un bon compactage et puis après vérifier les performances mécaniques là, à travers les mesures de déflexion.
D'accord. Donc là, on a fini la mise en œuvre, mais étant donné que c'est un nouveau matériau,
c'est ça.
Vous avez en phase de conception, il y a eu une durée de vie qui a été attribuée, on va dire à la route pour la conception. Est-ce qu'on essaie de suivre ça, comment on appelle ça, du début, étant donné que c'est un nouveau matériau, hein, du début jusqu'à la fin de la durée de dimensionnement? Ça, c'est à votre charge ou c'est à la charge du maître d'ouvrage?
Et bon, déjà, c'est comme tout marché. Hein. C'est comme tout marché. C'est vrai que ce dernier-là, il était un peu innovateur, mais dans un marché, il y a une durée de garantie. Donc, après la durée de garantie, l'entreprise n'est plus responsable des travaux qui ont été réalisés. Mais déjà, nous, comme c'est une nouvelle technique que nous, on a introduit ici, nous, on fait quand même un suivi de ce qu'on a réalisé. Parce que nous aussi, ça nous intéresse de comprendre un peu le comportement de ce matériau-là. Donc, on a fini pratiquement en 2018, de 2018 jusqu'en 2021, oui, je crois bien, on a fait des suivis. Et ce suivi-là, c'est fait à travers les mesures de déflexion. Donc, on a fait une série de campagnes de déflexion chaque année pour voir un peu comment est-ce que les valeurs de déflexion là se comportent.
D'accord. Donc, pour le suivi, c'est essentiellement la déflexion.
Oui, pour le suivi, on a fait la déflexion, mais on a fait aussi des carottages. On a prélevé le matériau recyclé à l'émulsion de bitume et le ciment là, en réalisant des carottages. Donc, on a sorti des carottes et on a fait des essais de modules dessus.
OK, pour s'assurer qu'au bout d'un certain temps, on a plus ou moins les mêmes caractéristiques que ce qu'on a eu avant de commencer. Pour le suivi, il y a les mesures de déflexion et puis vous avez réalisé des carottes sur lesquelles vous allez faire après des essais de modules.
C'est ça. Donc, avec les suivis de déflexion, bon, on modélise juste la structure de chaussée, on fait des rétrocalculs pour en déduire un module. Donc, après, on fait des carottes, on envoie en laboratoire, on fait les mêmes essais de modules qu'à l'étude de formulation pour voir si on a toujours notre module dimensionnant.
D'accord. Maintenant, ça, c'est vraiment les caractéristiques mécaniques. Est-ce que durant la période d'observation déjà passée là, visuellement, on a des soucis?
Ah, visuellement,
soit des ornières, des nids de poules. Est-ce que c'est...
Visuellement, ça se comporte très bien. Voilà, jusqu'à présent, on n'a pas observé de dégradation. Voilà, ça fait quand même, on a fini le chantier en 2018, hein, donc ça fait quand même 4 ans. Normalement, au bout de 7 ans, de 5, 6, 7 ans, il faut quand même songer à faire quelques entretiens courants. Donc, aller nettoyer tout ce qui est fossé, caniveau, buse d'allô, aller faire quelques curages, dégager un peu les bordures des routes là, parce qu'il y a la végétation qui a poussé. Donc, je pense que si on fait tout ça correctement, normalement, on ne devrait pas avoir de problème vu l'état actuel de la chaussée actuellement, vu également le comportement du matériau recyclé.
OK. Une autre question. Certes, actuellement, vous êtes en train de faire un suivi des paramètres mécaniques, mais j'imagine que les déflexions peuvent varier en fonction du trafic. Est-ce que vous tenez compte du trafic, par exemple, vous faites un comptage régulièrement pour vous assurer que vraiment le trafic qui est prévu, soit on a ce trafic, et puis malgré ça, on a encore de bonnes caractéristiques. Parce qu'on peut obtenir de bonnes caractéristiques, pourtant en réalité, le trafic escompté n'est pas atteint. Donc, quelque part, il n'y a pas vraiment de dommages sur la structure, donc c'est normal qu'elle soit en bon état.
Bon, déjà, en termes de trafic, je sais qu'on n'a pas encore fait de comptage, mais il faut savoir que quand on réalisait la route au départ, le trafic qu'on a considéré, c'était les camions qui empruntait une voie parallèle. Donc, au lieu de passer par Coupé pour aller à Kotobi, on a fait une sorte d'étude sur l'axe Bonan-Ouen-Ara, la voie qui passe par Ara pour venir à Kotobi. Mais la voie-là était carrément impraticable. Donc, j'avais, je dirais, pratiquement zéro PL qui empruntait cette route-là parce qu'on ne pouvait pas passer. Voilà, on avait de grosses déformations, on avait de gros nids de poules. Voilà. Et les camions qui essayaient s'embourbaient pratiquement. Donc, le comptage le trafic qu'on a utilisé pour le dimensionnement de la chaussée, effectivement, après livraison, on devait normalement faire un certain nombre d'études, de faire de comptage pour connaître un peu le trafic. Mais je n'ai pas ces données, mais je sais que j'ai vu quelques agents de... la direction régionale de Bongwanou, là, du ministère, j'ai vu les gars de la DGIL faire cette étude-là. Donc, je sais que ces données-là existent. Maintenant, au-delà de ça, quand on devait faire notre planche d'essai de béton bitumineux à l'émulsion, il y a une voie qui est dans la continuité de cette voie-là sur laquelle on a fait une étude de trafic. Donc, le nombre de poids lourds qu'on a obtenu était quasiment semblable à celui qu'on a utilisé pour faire le dimensionnement de notre route. Alors que notre route là, normalement, reprend plus de trafic que la route sur laquelle on a fait notre planche d'essai. Donc là où on a fait la planche d'essai, c'était entre Bongouanou et Mbato. Bongouanou, Mbato, le trafic est moins dense par rapport à Bongouanou, Kotobi, Akoupé. Le trafic sur l'axe de du projet de recyclage là est plus dense que celui de Mbato, Bongouanou. Mais le comptage qu'on a réalisé sur Mbato, Bongouanou était pratiquement la même chose que ce qu'on a utilisé pour le dimensionnement de Bongouanou à couper, Bongouanou Kotobi à couper. Maintenant, généralement, quand on fait les dimensionnements, il y a ce qu'on appelle le taux de croissance, voilà, qui peut être soit
le taux d'accroissement du trafic.
Voilà, le taux d'accroissement. Donc, qui peut être géométrique ou arithmétique. Donc, généralement, nous, on prend 5% géométrique. Donc, quand moi, je fais le parallèle entre le trafic que j'ai obtenu sur Mbato Bongouanou et celui de Bongouanou Kotobi à couper, je pense, voilà, que le trafic sur notre voie là est quand même à augmenter, donc a suivi un peu le taux d'accroissement. Mais ça s'explique, hein. Au départ, c'était une route qui était quasiment impraticable. Aujourd'hui, cette voie là, si tu veux, l'autre voie parallèle à cette voie qui passe par Ara, aujourd'hui, tu as peu de véhicules qui empruntent cette voie là, tout simplement parce que la plupart des poids lourds qui passent par là vont soit dans la zone de Mbato, vont vers Dembokro, et puis ou encore vers Daoukro.
Donc, non, en fait, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que le taux d'accroissement, c'est un paramètre d'entrée qui est généralement choisi par le maître d'ouvrage.
C'est ça.
Donc, lorsque vous avez fait la conception, il y avait un taux d'accroissement qui était là, je ne sais pas, c'est 5% ou combien.
C'est ça.
Et il y avait un taux d'accroissement qui était déjà choisi.
Tout à fait. Oui.
Vous avez fait les calculs avec. Mais est-ce que après un an ou deux ans, c'est vrai que vous suivez le comportement de la chaussée, mais est-ce que vous assurez que, par exemple, le trafic que vous avez actuellement, quand on essaie d'appliquer le taux d'accroissement jusqu'à à cette période-là, c'est ce trafic qu'on devait avoir. Il est on a exactement le trafic. On a un trafic qui est en dessous de ce qui était prévu, ou bien on a un trafic qui est supérieur à ce qui a été prévu.
Non, je pense que le trafic qui a été prévu, je pense qu'on est dans la logique du trafic qui a été prévu.
D'accord, c'est tout ce que je demande.
C'est ce que je tentais d'expliquer là. Mm-hmm. Et en fait, la route. On a commencé, je crois, le chantier pratiquement en 2017, la fin 2016, début 2017. La durée du projet, c'était de 2 ans. Donc, à la date de mise en service, le trafic qui est pris pour le dimensionnement, c'est le trafic, c'est le nombre de poids lourds à la date de mise en service. Donc, après la date de mise en service, chaque année qui va passer, le trafic va augmenter. C'est ce qui est normal. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai une voie qui est moins dense par rapport à la voie qu'on a utilisée pour notre dimensionnement. Le trafic sur ma voie qui est moins dense est pratiquement semblable à celui que j'ai utilisé pour la date de mise en service de ma route, après, bien entendu, quelques années. Donc, c'est une déduction, hein. Ça peut ne pas être exactement ça. On peut avoir un trafic au-delà, mais les mesures de déflexion qu'on a réalisées nous ont montré que la structure de chaussée en place évolue très bien. Voilà, donc je pense qu'on est dans la logique du trafic qui a été utilisé pour le dimensionnement, peut-être même un peu plus, parce que une fois qu'une route est réalisée, on a du trafic induit, voilà, dont on n'a pas forcément tenu compte pour faire le dimensionnement de la chaussée. Donc, à la limite, on a soit le même trafic ou un trafic un peu plus dense.
D'accord. Ben, je pense qu'on a parcouru la question depuis.
Ben, je vais me renseigner auprès de la DGIR là, de Bangouanou, là, okay. Pour voir un peu quel est le trafic sur le tronçon. Je sais qu'ils ont fait des comptages.
D'accord, on peut toujours ajouter des informations complémentaires dans la description de l'épisode pour ceux qui seront intéressés.
Maintenant, bon, le trafic qui agit sur la déflexion, bon, peut-être que si le trafic est plus important, ça peut détériorer un peu les déflexions. Mais normalement, en général, les déflexions sont fonction de la structure de chaussée. Mmh. Donc, voilà, en fonction de ta structure de chaussée, tu as ta déflexion qui va avec cette structure de chaussée.
Oui, en fait, la déflexion est fonction de la structure de chaussée, mais elle dépend aussi du trafic. Parce que plus on a un trafic, ça aura tendance à fatiguer plus vite les couches, les matériaux bitumineux. Et puis aussi, on aura des déformations irréversibles plus rapidement sur les matériaux non liés. Donc, voici pourquoi je demande. Certes, on suit l'évolution de la structure, mais en même temps aussi, on se demande, est-ce que le trafic qui est censé aggraver ou bien le trafic qui est censé endommager la voie, on a vraiment ce trafic-là. Parce que si on a un trafic en deçà de ce qui est prévu, tu es d'accord avec moi qu'on n'aura pas vraiment de dommages sur la voie. Pourtant, en réalité, la voie est faite pour supporter plus.
C'est ça, c'est ce que je dis. J'ai une voie juste après ma section qui a un trafic qui est semblable à celui de ma section.
D'accord.
Donc, c'est clair que, alors que de Mbato, voilà, pour que tu puisses bien comprendre, de Mbato, la seule sortie, c'est Bangouanou. Bon, après, ils peuvent aller à Dembokro, mais c'est vrai qu'il y a d'autres voies parallèles de sortie, mais ces voies-là ne sont pas bitumées. D'accord. Donc, les PL auront tendance à emprunter celle de Bangouanou. Donc, sur Bangouanou, Mbato, j'ai un trafic qui est pratiquement pareil que celui de Bangouanou à couper. Donc, j'en déduis, hein, je fais une déduction, hein, ce n'est pas forcément juste, mais je me dis que sur Bangouanou, Mbato et Bangouanou à couper, on a un trafic qui est quand même dans la logique de ce qu'on a utilisé pour le dimensionnement, voire un peu plus.
D'accord.
Okay, mais c'est vrai qu'il faut faire le comptage. Donc, je vais me renseigner auprès de la DGIE là, qui ont fait cette étude-là pour voir un peu quel est le trafic qu'on a sur notre section.
D'accord. OK. Je pense qu'on a parcouru la question du recyclage des matériaux à froid. On a parlé de la conception, les essais préliminaires sur le matériau existant, le choix de l'émulsion à utiliser avec le dosage qui va avec. À la suite de ça, on a parlé des essais mécaniques, des essais de fatigue, ainsi de suite, pour obtenir les modules. Et on a parlé de mise en œuvre. Pour terminer, on a aussi parlé du suivi, au fait, du comportement de la structure. Donc, moi, j'ai vraiment pris un partage j'ai vraiment pris un plaisir à réaliser cet épisode. Je pense que j'ai appris pas mal de choses. J'espère que ce sera pareil pour les auditeurs. Donc,
C'est ça.
si tu as un mot de fin, il est le bienvenu.
Bah, mon mot de fin, c'est déjà te dire merci pour ce que pour l'initiative que voilà, tu prends en faisant ce podcast. Voilà, j'aimerais t'encourager toujours dans ce sens-là. Voilà, ça permet quand même à un maximum de personnes de partager un certain nombre d'expériences sur tout ce qu'on fait hein, au niveau de la Côte d'Ivoire concernant les projets qu'on réalise dans notre domaine, dans les travaux publics et puis dans le génie civil. Donc, j'invite les auditeurs à te suivre parce qu'à travers cette émission-là, on arrive quand même à avoir, à connaître, à savoir plus ou moins qu'est-ce qui se passe en dehors de notre environnement. On arrive à découvrir un peu les projets qui se font et les différentes techniques qui sont utilisées pour la réalisation de ces projets-là. On découvre aussi le métier, donc pour les plus jeunes, ça sera très instructif. Donc, je les invite tous à, voilà, à suivre ton podcast. Donc, je pense que c'est mon mot de fin. Et
OK.
puis, j'invite aussi l'État de Côte d'Ivoire, voilà, à croire au projet de recyclage avec l'émulsion de bitume. C'est quelque chose qui marche. On l'a fait sur Akoupé-Kotobi-Bongouanou. Ça se comporte très bien. On l'a expérimenté au Mali. Ça se passe également bien. Donc, je pense que les années à venir, c'est quelque chose vers lequel on peut se tourner parce qu'il a cette particularité-là de rendre quand même les chaussettes souples. Or, on sait que chez nous, quand on dimensionne une structure de chaussée avec un certain nombre de poids lourds, on a généralement, on est confronté à des risques de surcharge. Voilà. C'est vrai que l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts pour réduire les surcharges à travers les postes de pesage, mais on a toujours de l'incivisme. Donc, c'est une technique qui permet plus ou moins de pallier hein, à ces risques-là parce que c'est une structure de chaussée souple qui permet d'absorber de grandes déformations, contrairement aux structures classiques en ciment ou bien rigides ou semi-rigides qui admet moins de déformations. Donc, en plus de ça, notre climat, il est favorable à ce type de traitement-là, parce que plus il fait chaud, plus le mûrissement s'accélère, plus le matériau devient beaucoup plus performant. Donc, j'invite l'État de Côte d'Ivoire à croire à ce type de projet-là, parce que je pense que c'est l'avenir pour nous tous. Voilà. Merci.
Ok, merci bien. J'espère que certains représentants de l'État de Côte d'Ivoire t'entendront. Et puis, en tout cas, merci. Et puis, à la prochaine.